Vous écoutez Droit moderne, présenté par le magazine national de l'Association du barreau canadien. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux juridiques liés à la gouvernance autour des nouvelles technologies et des droits de la personne. La vitesse à laquelle nos sociétés et nos vies se transforment sous l'effet des technologies numériques est tout à fait inédite. L'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, l'informatique quantique sont ou seront, sans aucun doute, parmi les principaux moteurs de cette transformation. Mais ces technologies, qui ont le potentiel pour nous aider à améliorer nos vies, peuvent également être utilisées pour restreindre nos droits et aggraver les inégalités. D'où les initiatives pour encadrer leur évolution, par la voie de la réglementation et la gouvernance. Mais comment les acteurs gouvernementaux peuvent-ils assurer le respect de nos droits dans un espace réglementaire où le secteur privé prend de plus en plus de place? Pour nous parler de ces enjeux, notre invitée aujourd'hui est Maroussia Lévesque. Maroussia Lévesque est avocate et chercheuse en droit des technologies. Ses travaux portent justement sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Elle est doctorante à la faculté de droit de l'Université Harvard, affiliée au centre de recherche Berkman Klein et fellow senior au groupe de réflexion CG, Center for International Governance Innovation. Elle a participé à l'élaboration de politiques étrangères en matière d'IA à Affaires mondiales Canada et a été recherchiste auprès de la juge en chef du Québec. Maroussia est aussi membre du groupe de travail sur l'IA et les protocoles autochtones et a participé à l'élaboration d'un standard sur les biais algorithmiques à l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Elle est l'auteur d'un papier publié par CG, Scoping AI Governance, a Smarter Toolkit for Beneficial Applications. Merci Maroussia Lévesque d'être ici avec nous aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir d'être là.
Je noterai simplement que nous sommes en train d'enregistrer cette conversation le 21 mars 2022. Pour lancer la discussion, Maroussia, racontez-nous votre parcours. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux questions de gouvernance et des technologies?
Donc, j'ai fait mes études en art numérique puis en droit. C'était la façon naturelle de combiner les deux domaines. Lors de mon passage à Affaires mondiales Canada, où j'étais en charge du dossier intelligence artificielle et droits humains, ça m'a vraiment ouvert à la dimension géopolitique des technologies. Et j'ai décidé de poursuivre mes recherches sur cette question de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, je me concentre sur les questions d'égalité et de non-discrimination en droit américain avec un élément comparatif avec le Canada.
Qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'ici?
En matière d'égalité, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités au Canada qu'aux États-Unis parce que les Américains ont une vision très restrictive du droit à l'égalité qui empêche en fait beaucoup de programmes d'amélioration. Et en matière de biais algorithmique, ça enlève beaucoup d'outils sur la table pour corriger des inégalités qui sont dans les données qui entraînent ces systèmes-là et qui sont perpétuées et même légitimées dans les résultats des systèmes algorithmiques.
Et au Canada?
Au Canada, je pense que, vu la formulation beaucoup plus claire de l'article 15 de la Charte, avec notamment l'article 15.2 qui permet explicitement des programmes d'amélioration, on a évité ce problème-là dès le début. J'ai trouvé ça fascinant dans mes recherches de voir que l'élaboration, l'ébauche de la Charte canadienne en 82 était directement, même avant, dès 78, était directement en réaction à cette position très restrictive américaine où plusieurs intervenants en commission parlementaire faisaient référence à un cas aux États-Unis qui était sur le point d'être décidé et qui a été décidé au fil des discussions canadiennes. Donc, au même moment, c'est-à-dire que le Canada se penchait sur comment est-ce qu'on va définir le droit à l'égalité dans notre charte. Au même moment, aux États-Unis, on avait la Cour suprême qui envoyait un signal très restrictif qui empêche le gouvernement d'avoir des programmes d'amélioration parce que la vision de l'égalité aux États-Unis fait en sorte que tout traitement différentiel est discriminatoire, que l'objectif soit de perpétuer des inégalités systémiques ou de les alléger. Donc, ça enlève beaucoup d'outils sur la table. Et c'est quelque chose qui était très présent à l'esprit des gens qui débattaient sur notre charte canadienne. On peut tracer une ligne directe entre l'article 15.2 qui permet explicitement les programmes d'amélioration et la jurisprudence américaine.
En quoi l'article 15 vous intéresse par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle?
Mais c'est ça, je pense qu'il faut peut-être faire un pas en arrière puis décrire en quoi l'intelligence artificielle pose des problèmes de biais algorithmiques. Donc, c'est un phénomène qui est bien documenté maintenant. En gros, le jeu des données qui sert à entraîner les systèmes d'apprentissage automatique reflète les inégalités systémiques passées, notamment les inégalités raciales ou les inégalités de genre. Donc, sans intervention explicite, les prédictions de ces systèmes-là perpétuent, voire exacerbent ces inégalités. Et le phénomène est d'autant plus préoccupant que les systèmes d'IA revêtent un air d'objectivité alors qu'ils se basent sur des données biaisées. Donc, il y a plusieurs outils, plusieurs approches pour redresser les biais. Certaines de ces approches seraient aux États-Unis constitutionnellement impermissibles, puis je pense qu'au Canada, il y a plus de latitude. Donc, pour faire un portrait rapide des interventions qui pourraient être sur la table, on peut parler de recalibrer les erreurs au niveau des résultats des systèmes de prédiction. C'est-à-dire, on peut s'assurer d'avoir le même taux d'erreur pour les groupes dominants et les groupes minoritaires. Donc, en d'autres mots, on pourrait s'assurer que les systèmes ne se trompent pas plus souvent avec les minorités dans les prédictions. Quand on parle de se tromper, si je peux donner un exemple concret, ce serait, par exemple, déterminer si une personne est approuvée pour une hypothèque. Si on fait ça à travers un système automatisé, on pourrait se rendre compte que le système nie plus souvent des personnes issues des minorités des hypothèques alors qu'elles auraient le potentiel de pouvoir les assumer. Ça, ce serait un exemple. Mais aux États-Unis, vu l'allergie vraiment à tout ce qui est traitement différentiel, ce genre d'intervention serait très constitutionnellement suspect parce que ça implique de mettre les individus dans des catégories raciales ou de genre, par exemple.
Laissez-moi vous interrompre. On parle ici de genre de programme de affirmative action, comme on dirait, ou...
Ben là, je parle pas nécessairement
discrimination positive, ou...
Ouais, en fait, on pourrait le voir comme ça. Ce serait une forme de discrimination positive dans la mesure où il y aurait un traitement différentiel où on dit, OK, on va s'assurer que c'est pas tant qu'il y a un quota de personnes issues des minorités qui soit approuvé ou qui ait un résultat donné. C'est pour ça que j'hésite à utiliser le mot affirmative action ou discrimination positive, parce que c'est plutôt de l'égalisation, dans le sens où c'est de s'assurer que les taux d'erreur sont les mêmes, peu importe que la personne soit issue d'une minorité ou non. Mais il y a une vision, disons, formaliste qui dirait aux États-Unis, c'est une forme de traitement différentiel parce que à la base, vous catégorisez la personne comme étant, par exemple, noire ou blanche. Même si le résultat ultime n'est pas de donner préférence aux personnes noires, c'est simplement de s'assurer qu'ils ont le même traitement que les personnes blanches. La première étape est de mettre un genre de une catégorisation raciale sur la personne, et ça, c'est quelque chose avec quoi les cours américaines sont très, très mal à l'aise. Donc, ce genre d'intervention-là est beaucoup plus problématique aux États-Unis qu'il ne serait au Canada, où on a cette disposition explicite qui permet de prendre en compte ces caractéristiques-là quand l'objectif est de rebalancer ou d'avoir un effet pour diminuer les discriminations systémiques.
Ou atteindre une égalité substantive?
Oui, on peut le voir comme ça. On peut voir que, je pense que c'est d'ailleurs la vision dominante au Canada. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je me concentre plutôt sur le droit américain que le droit canadien, mais il y a une certaine vision de l'article 15.1 et 15.2 qui dit que les deux sont au service de l'égalité substantive. Donc, c'est une autre façon de voir les choses.
Justement, parlons un peu de la charte, mais même les instruments des droits et libertés aux États-Unis qui nous mettent en rapport avec les gestes et les actes de l'État. Quand la charte avait été conçue il y a 40 ans, et puis on est sur le point de célébrer les 40 ans de la charte canadienne, justement, ça a été conçu comme un instrument juridique qui reflétait nos valeurs canadiennes, mais dont on pouvait se servir pour affirmer nos droits vis-à-vis de l'État. Cela comprend les libertés fondamentales autour de l'expression, la liberté de l'expression, la religion, les droits démocratiques, le droit à la vie privée. Mais là, on voit que l'environnement a changé en quelque sorte et on voit des acteurs privés qui arrivent en scène dans cet espace politique, ce qui a fondamentalement peut-être changé la nature et la qualité de nos droits. Et donc, nos rapports ne sont pas seulement avec l'État, mais également avec des acteurs privés qui sont quand même très importants et qui occupent une grande place dans nos vies. J'imagine que vous avez remarqué ça. Que pensez-vous de ça et comment est-ce que la technologie a changé ce terrain de jeu pour nous?
Bien, tout d'abord, je pense que c'est exact de voir le rôle des grands groupes comme Google, Facebook, Amazon comme étant équivalent, sinon plus puissant que l'État d'une certaine façon. Certains ont un chiffre d'affaires qui excède le PIB d'autres pays. Donc, c'est sûr que ces groupes-là sont à la tête des développements technologiques et que leur motif premier, leurs obligations même, est d'être profitables. Et ces motivations-là ne sont pas nécessairement alignées avec le respect des droits et libertés. Donc, si on parle de vie privée, par exemple, le modèle d'affaires de plusieurs compagnies est l'extraction de données pour cibler les consommateurs. C'est ce que Shoshana Zuboff décrit comme étant l'économie de la surveillance, soit cette idée de dépier le comportement des utilisateurs en ligne et de revendre ce surplus comportemental-là aux publicitaires afin de cibler les campagnes de promotion. Donc, en tant qu'utilisateur, on a parfois l'impression qu'on utilise ces services-là de façon gratuite. Mais ça a un prix, on paie avec nos données. De façon plus large, on peut parler aussi d'une économie de l'information. Ça décrit, dans le fond, comment le droit est au service de l'exploitation des données. C'est-à-dire qu'il y a un vide juridique autour de la protection des données qui normalise leur extraction comme s'il s'agissait d'une ressource brute à exploiter. Et l'IA, plus précisément l'apprentissage automatique, machine learning en anglais, permet de tirer profit de ces données, permet d'avoir une analyse très poussée à grande échelle afin de prédire le comportement des utilisateurs, de trouver des associations aussi, des recoupements et procéder à un micro-ciblage des publicités. Donc, ce genre de prédiction-là, c'est très subtil. Dans plusieurs contextes, les utilisateurs ne sont même pas au courant ou ne connaissent pas les facteurs pertinents aux prédictions qui s'appliquent à eux. Donc, je pense aussi aux applications de reconnaissance faciale et aux applications de reconnaissance émotionnelle en particulier, qui visent à inférer les émotions à partir des données physiologiques comme les mouvements des muscles faciaux ou le rythme cardiaque. Donc ça, c'est très invasif au niveau de la vie privée. Même si on ne vise pas à identifier un individu, donc ce serait potentiellement pas couvert par la notion de renseignement personnel au sens notamment de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, mais ça reste que c'est quand même très invasif. Ça peut être utilisé à toutes sortes de sauces, si on veut, comme garder un œil sur la morale des employés ou mesurer le comportement des élèves, que ce soit en classe ou sur Zoom, ou encore le contrôle des foules lors de manifestations pour prédire la violence et peut-être ultimement justifier l'intervention des groupes tactiques. Donc, on voit ici cette espèce d'interaction entre le pouvoir étatique et des technologies qui sont déployées dans un contexte de contrôle des foules, mais par des compagnies privées. Donc ça, c'est un aperçu très bref des implications au niveau de la vie privée, mais on a parlé aussi de liberté d'expression. Donc, un des meilleurs exemples de ça, je pense que c'est la modération des contenus sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Une partie importante du discours public se fait maintenant sur des plateformes privées et la responsabilité de la gestion du contenu se fait par des entreprises privées qui n'ont pas de contrepoids comme la protection de la liberté d'expression qui s'appliquerait aux acteurs publics. Donc, c'est sûr que ça pousse les limites de la pertinence des protections de droits publics quand ce sont des modérateurs d'une compagnie privée qui font ça, que ce soit des modérateurs humains qui révisent le contenu, mais de façon encore plus problématique quand il y a une composante automatisée à l'analyse de contenu qui est encore plus opaque. On a très peu d'informations publiques qui filtrent sur comment ces algorithmes de modération fonctionnent, sur leur taux de succès. Et plutôt, je parlais de la distribution d'erreurs entre des groupes minoritaires et majoritaires. Bien, on a très peu d'informations sur quand est-ce que ces systèmes se trompent, sur qui ils se trompent et de quelle façon ils se trompent. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des faux positifs, on efface du contenu légitime, ou est-ce que ce sont des faux négatifs, on laisse en ligne du contenu qui va à l'encontre des politiques des plateformes. Donc, si je fais une grande caricature, là, juste pour que ce soit plus concret, on peut imaginer un genre de scénario d'horreur, là, si on veut, où une grande plateforme utilise un algorithme qui laisse systématiquement en ligne le contenu de suprémacistes blancs, parce que leur algorithme ne le voit pas, alors qu'il efface systématiquement le contenu de personnes racisées qui utilisent un vocabulaire qui leur est propre pour eux, par eux, mais que le système identifie comme étant contre les politiques de modération. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important à la liberté d'expression qui n'est pas adéquatement protégé par la liberté d'expression telle qu'elle est à la Charte, puisque la Charte ne s'applique pas directement à ces entreprises privées.
Mais ce qui est troublant aussi, pour certains, c'est que, oui, on a des entités privées là, qui assument ce rôle de modérateur de contenu, mais en même temps, une part de cette pression vient des autorités publiques et des gouvernements, et puis parce que, bon, eux sont redevables envers les électeurs qui semblent avoir perçu que, bon, ben, peut-être qu'il y a un problème dans la façon dont les gens s'expriment sur ces plateformes-là. Et donc, il y a une certaine pression qui vient de l'État, mais là, ce sont des entités publiques qui font la modération. Donc, quel rôle jouent justement ces instruments juridiques comme le Bill of Rights ou comme la Charte canadienne? Est-ce que ce sont des outils qui sont encore en mesure de protéger nos droits et libertés dans ce contexte-là, quand il y a une espèce de... quand on a plus de mal à différencier entre justement la sphère publique et la sphère privée?
Bien, je pense que, comme introduction à ma réponse, je dirais qu'il faut différencier entre les États qui demandent formellement aux plateformes d'effacer du contenu parce que ça contrevient aux lois locales. Je pense notamment à une loi allemande qui requiert aux plateformes d'enlever le contenu qui contrevient aux lois locales dans les 24 heures du moment où ils en prennent connaissance, versus les pays qui collaborent de façon informelle avec les plateformes. Donc, chaque situation pose des problèmes distincts. Au niveau des pays qui invoquent leurs propres lois, on peut penser que leur charte locale, dépendamment du pays dans lequel on se situe, offre quand même des garanties minimales pour que l'État n'utilise pas ses lois afin de censurer, par exemple, des dissidents politiques. Et il y a un minimum de processus judiciaire ou administratif où un juge ou un juge administratif s'assure que la demande est justifiée, que le contenu visé prime en effet les lois locales. Donc, ça, c'est la première situation. La deuxième situation, beaucoup plus problématique, survient lorsque les gouvernements demandent informellement aux réseaux sociaux d'enlever du contenu. C'est notamment le cas en matière de lutte contre le terrorisme. Beaucoup de pays ont des unités spécialisées qui s'affairent à repérer du contenu indésirable, par exemple incitation au terrorisme, et demandent aux plateformes de le retirer. Non pas parce que ça contrevient aux lois locales, mais parce que ça contrevient aux politiques internes des plateformes. Donc, une autre façon de dire ça, c'est comme si un pays prenait le même rôle que vous et moi. Si vous et moi étions sur une plateforme et qu'on voit du contenu qui nous semble inopportun, ben on le signale à la plateforme et la plateforme fait sa propre évaluation selon ses politiques internes. Mais les gouvernements, donc, revêtent ce rôle-là comme si c'était des utilisateurs. Parfois, le signal à la plateforme et parfois, le signal pas à la plateforme, le fait qu'ils sont des gouvernements. Mais tout ça étant pour dire qu'ils le font sans autorisation judiciaire, sans processus formel où un tiers indépendant s'assure que le gouvernement n'est pas en train de censurer du contenu qui ne lui plaît pas de façon indirecte. Donc, il y a plusieurs pays qui ont des unités spécialisées comme ça, pour repérer du contenu terroriste. Je pense qu'on peut pas tous les mettre dans le même panier. Probablement que c'est moins problématique dans des juridictions où l'état de droit est assez robuste. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne, où il y a quand même eu des débats parlementaires, où il y a une forme de reddition de compte sur les activités de ces unités-là. Puis d'autres unités aussi publient volontairement un rapport de transparence qui détaille un peu leurs activités. Mais si on pense à d'autres pays, comme par exemple la Turquie, l'Égypte ou les Philippines, qui ont un historique de répression de la dissidence politique en ligne, on voit en quoi ces collaborations informelles sont beaucoup plus problématiques. Puis ça met les plateformes dans une position très, très inconfortable, où ils doivent quelque part être l'arbitre de la légitimité des demandes. Et donc, ils sont en train de mener leur propre politique étrangère, si on veut, où ils diraient, par exemple, on collabore avec les demandes de l'Union européenne, mais on ne collabore pas avec les demandes de la Turquie, pour reprendre l'exemple. Mm-hmm. Donc, ils sont vraiment entre a rock and a hard place, en bon français, où ils veulent pas nécessairement se mettre à dos certains pays où il y a un grand marché pour eux, mais ils ont aussi cette pression, surtout depuis Christchurch, l'attentat en Nouvelle-Zélande. Ils ont vraiment une grande pression sur leurs épaules de ne pas participer à la promotion d'actes terroristes. Donc, position difficile pour les plateformes.
Mais cela dit, même dans des pays où la primauté du droit est assez en assez bonne santé, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'État puisse se soustraire de ses obligations en ce qui concerne assurer le respect de nos droits ou bien même de je ne sais pas, même par rapport à la liberté d'expression, je pense un petit peu à le droit à la vie privée, mais même par rapport à la liberté d'expression, de jouer ce rôle de sous-contracter ce rôle d'arbitre de contenu acceptable à des entités privées. Qu'en pensez-vous?
Dans un monde idéal, c'est sûr qu'un cadre législatif clair serait la solution parfaite. Maintenant, je pense que les gens qui sont au front des efforts antiterroristes répondraient, pour faire l'avocat du diable, on a besoin aussi d'une certaine flexibilité, on a besoin de pouvoir intervenir rapidement. Quand on a sur nos épaules la responsabilité de protéger notre nation contre le terrorisme, on a besoin de tous les outils dont on peut se servir. Ça, c'est l'autre argument. Maintenant, c'est sûr que la logique de la menace imminente va toujours avoir gain de cause si on met ces deux choses-là dans la balance. Mais je pense qu'il y a aussi une troisième solution qui est de regarder du côté des plateformes elles-mêmes, de se tourner vers elles pour qu'elles nous donnent plus de transparence sur la teneur de leur collaboration avec ces pays-là, avec les demandes informelles de ces unités-là. Donc, on peut demander de la transparence des pays, mais on peut aussi demander à ce que les plateformes nous disent avec qui elles collaborent exactement, quel est leur taux d'acceptation des demandes et combien de ces demandes-là sont refusées, pourquoi. Alors, ça pourrait être une forme indirecte de forcer les pays à être plus diligents dans leur collaboration informelle avec les plateformes.
Ben, précisément, parce qu'on semble souhaiter que le secteur privé se responsabilise un petit peu, toutes ces choses-là, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours confiance au secteur privé parce que ils sont généralement il y a un peu cette histoire de l'appât du gain et tout ça dans tout ça. Alors comment faire pour établir un système de gouvernance dans lequel on a une certaine confiance, qu'ils vont respecter nos droits de manière responsable, et quel est le rôle de l'État là-dedans? Est-ce qu'ils doivent collaborer ensemble? Quel est le genre de système de gouvernance qu'on doit essayer d'élaborer à partir de ces considérations-là?
Je vais aller du spécifique au général.
OK.
Je pense qu'on voit des modèles de gouvernance hybrides qui sont en train d'émerger où des compagnies privées s'inspirent du droit public international, notamment des droits humains, plutôt que du droit constitutionnel pour guider leurs décisions de modération de contenu, par exemple. Je reprends cet exemple-là parce que c'est un des domaines où on a le plus d'expérimentation. Par exemple, Facebook a par exemple un conseil de révision de ses décisions qui s'appelle en anglais le Facebook Oversight Board, et c'est une entité distincte qui a été créée par la compagnie pour revoir certaines de ses décisions de modération de contenu. La charte du conseil de révision établit des termes de référence. C'est aussi intéressant au passage de noter qu'il s'agit d'une charte comme si c'était quelque part un pays. Donc, c'est une forme de formalisation, de constitutionnalisation, on pourrait dire, du comportement de ces plateformes qui reconnaissent le risque d'une perception qu'ils exercent leur pouvoir de façon arbitraire. Donc, ils ont décidé volontairement de se départir d'un pan de leur pouvoir. Mmh. Et cette charte-là, donc, établit des termes de référence pour la révision de contenu. La première référence, est la politique de modération interne de la compagnie, qui est d'ailleurs publique maintenant. Mais il y a aussi une référence aux droits humains, notamment la liberté d'expression. Donc, on voit cette espèce de double mouvement où, d'une part, les compagnies s'inspirent du droit public et, de l'autre part, certaines entités du droit public se soustraient à leurs obligations. Puis, c'est intéressant de noter que dans les décisions de ce conseil de révision-là, qui est d'ailleurs formé de plusieurs experts qui ont beaucoup d'expérience en termes de droits humains, on a plusieurs références à la mention, pas seulement au droit à la liberté d'expression, mais aussi au droit à l'égalité. Donc, en pratique, via le droit international, il y a une influence du droit public sur le comportement des compagnies privées. Si je vais à un niveau un peu plus général, de façon plus large, on a les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits humains qui font le pont entre droit public et entité privée, notamment à travers la responsabilité de respecter les droits humains. Donc, c'est une notion qui est différente de l'obligation des États par rapport aux droits humains, puisque ce sont des entités qui ont un statut différent eu égard au droit international, mais ça, il en reste pas moins qu'il y a des obligations spécifiques pour les compagnies de faire des vérifications nécessaires préalables pour s'assurer que leurs activités commerciales n'ont pas d'effet indésirable sur les droits des populations affectées. Je mentionne aussi au passage que ces vérifications ne sont pas seulement préalables, elles sont aussi continues. Donc, il y a cette idée de garder une oreille tendue à ce qui se passe vraiment sur le terrain pour éviter que des effets imprévus se manifestent. On a plusieurs exemples. Je reviens à la modération de contenu où les plateformes ont réagi beaucoup trop tard, notamment au Myanmar, où du contenu très, très nocif incitant à la violence a contribué au génocide d'une minorité. Donc ça, c'est une autre avenue pour franchir le pont ou du moins diminuer le fossé entre droit public et entreprise privée. Puis, de façon encore plus générale et peut-être spéculative, on a aussi sur la table l'ébauche d'un traité liant en droit international où les pays parties s'engagent à légiférer les compagnies transnationales basées sur leur territoire afin que celles-ci respectent les droits humains dans leurs opérations internationales. Donc, c'est loin d'être gagné. C'est une idée qui est venue et qui est partie, qui est revenue sur la scène internationale, mais c'est toujours là, en trame de fond, cette idée de vraiment avoir un lien plus direct et liant entre droits publics, droits humains en particulier, et entreprises privées.
Dans un contexte comme celui de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plan de la réglementation et est-ce qu'il y a une collaboration entre les instances privées et puis les gouvernements dans ce secteur-là en particulier?
Il y en a plusieurs. Ça fait quand même quelques années, je dirais, que la discussion progresse, que surtout, en fait, je mentionne au passage qu'il n'y a pas juste les entreprises puis les gouvernements qui sont parties prenantes là-dedans, il y a aussi les membres de la société civile qui ont fait un travail phénoménal afin d'articuler l'impact de l'IA en termes de droits humains. Donc, ils ont vraiment repris ce vocabulaire, ce langage-là, pour attirer l'attention des gouvernements et des entreprises privées et de façonner leur comportement. Donc, on a des principes non liants, par exemple, à Google, où on s'engage à respecter les droits humains. Donc, est-ce que ça a vraiment une influence sur le comportement concret de ces entreprises-là? C'est sujet à débat. Notamment dans le cas de Google, cette idée de faire référence aux droits humains et d'avoir des principes éthiques est venue après une controverse où les employés ont manifesté leur désaccord par rapport à la collaboration de leur entreprise à des programme de reconnaissance d'objets pour le gouvernement américain, surtout la branche militaire, qui pourrait être utilisé pour des drones et les attaques ciblées. Donc, ça fait une certaine controverse. La compagnie s'est engagée à respecter le droit international, etc. Mais peu après, elle a développé un prototype d'engin de recherche pour la Chine, un marché qui exige la censure de certains résultats. Donc, on peut se permettre de douter que des déclarations simplement éthiques soient suffisantes. Au niveau des lois qui sont sur la table, on a notamment un projet de loi qui nous vient de l'Union européenne qui suggère de légiférer l'IA de façon beaucoup plus robuste, qui interdirait carrément certaines applications et aussi assujettirait des applications à haut risque à une forme de contrôle très, très étroite. Donc, on pense notamment, en ce qui a trait aux applications à haut risque, à tout ce qui est déploiement au niveau de l'emploi, tout ce qui est reconnaissance biométrique également fait partie des produits qui sont à haut risque. Et ces produits-là seraient soumis à une vérification par des vérificateurs spécialisés qui seraient aussi des parties privées, mais qui assureraient la conformité des produits avec les exigences substantives de la loi. Donc, c'est vraiment une approche de
basée sur le risque.
Conformité de produits, oui, basée sur le risque, mais aussi de sécurité des produits, on pourrait dire. Comme on le voit, par exemple, avec la nourriture ou avec les médicaments.
Cette loi, par contre, elle peine à devenir loi, ou ce projet de loi peine à devenir projet de loi, il me semble, non? Qu'est-ce qui se passe?
Ben, il avance petit à petit. C'est sûr qu'il fait l'objet de batailles de pouvoir très, très intenses, on pourrait dire. Donc, il y a un mouvement minoritaire, il y a un mouvement majoritaire. Il y a eu une lutte de pouvoir à savoir quel sous-comité serait à la gouverne de ça. On a une série de rapports de dissidence, là, on pourrait dire, qui sont sortis là-dessus. J'ai pas de boule de cristal, là, je ne sais pas si dans quelle forme la loi va finir par passer. Mais je dirais qu'entre les premières moutures, il n'y a pas tant de différence que ça. Un des domaines où on voit quand même des changements, c'est l'encadrement de la reconnaissance faciale utilisée par les forces de l'ordre. Donc ça, on voit que ça bouge quand même beaucoup. C'est trop tôt pour dire où est-ce que la loi s'en va, mais je pense que peu importe où elle s'en va, elle a déjà quelque part établit les bases de la discussion bien au-delà de l'Union européenne, parce que c'est une des premières lois qui s'attarde vraiment substantivement à qu'est-ce que c'est un déploiement de l'IA au risque, qu'est-ce qui devrait jamais être possible, et on voit cet effet-là des lois européennes bien au-delà de la juridiction, notamment en matière de protection des données, un phénomène qui est souvent appelé l'effet Bruxelles. Donc, les lois européennes en matière de protection des données ont eu un rayonnement international. Il est permis de penser que la même chose se produira avec la loi sur l'intelligence artificielle.
Selon vous, à quoi ressemblerait une gouvernance efficace de l'intelligence artificielle?
Je pense que le défi, c'est de reconnaître que les entreprises mènent le bal, mais qu'on peut... Donc, il y a des risques attenant à ça, c'est certain, mais qu'on peut aussi en tirer profit. Et mes recherches sont encore très préliminaires là-dessus, donc vous pouvez me reposer la question dans 2 ans, j'aurai peut-être une réponse plus cohérente à vous dire. Donc, je ne peux pas vous donner mon point d'arrivée, mais je peux vous donner mon point de départ. Mon point de départ, c'est que les gouvernements sont généralement à la traîne. En tout cas, c'est le discours dominant, que bon, ça prend du temps à légiférer, que l'expertise technique n'est pas nécessairement là. Mais les gouvernements ont néanmoins la responsabilité de protéger leurs citoyens de déploiements qui soient nocifs, que ce soit des déploiements technologiques ou de n'importe quelle autre activité privée. Donc, comment faire pour mieux superviser ces technologies-là sans mettre en danger l'innovation? Parce que ça, c'est aussi l'autre côté de la balance. C'est un peu l'éléphant dans
la pièce.
Dans la pièce, merci. Mais c'est que la protection des droits et libertés, c'est pas un discours qui se fait dans l'absolu. En pratique, les gouvernements essaient vraiment, surtout les gouvernements des économies avancées, essaient de garder leur avantage compétitif ou de le reprendre, essaient aussi de se positionner par rapport à la Chine qui développe ces technologies-là à une vitesse extrême avec des protections beaucoup moindres. Donc, comment faire pour s'assurer que les déploiements bénéfiques subsistent et florissent sans que les déploiements négatifs affectent les populations? L'idée d'explorer un modèle polycentrique de gouvernance, de co-gouvernance, c'est de comment tirer parti de l'expertise des entreprises privées sans abdiquer des responsabilités publiques. Alors, la première chose que je dirais là-dessus, c'est que on peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Certaines prennent vraiment au sérieux leur responsabilité sociale, puis ça converge bien avec leur modèle d'affaires. Plutôt, on parlait de la vie privée. Des compagnies comme Apple, par exemple, mettent leurs applications au service de la vie privée dans la mesure où, par exemple, dans le iPhone, il y a eu un changement de l'interface pour limiter la façon dont les applications
partagent nos données.
Voilà, merci. Donc, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier. Il faut s'assurer que la gouvernance collaborative favorise d'une certaine façon les entreprises qui prennent au sérieux la responsabilité sociale, mais aussi punissent les entreprises qui ne le font pas. Autre dimension, les compagnies qui sont bien établies ont un ascendant dans la mesure où ils ont les capacités techniques et légales de s'assurer de la conformité de leurs activités avec les lois, ce qui n'est pas mince à faire. Ce sont des lois qui sont, par exemple, en termes de protection des données, c'est des lois qui sont très complexes. Donc, on veut pas non plus tuer dans l'œuf les compagnies émergentes. L'autre aspect de ça, c'est, là, on a parlé beaucoup des compagnies, des gouvernements, mais quelque part, j'aurais peut-être dû commencer par parler des populations affectées qui sont finalement souvent laissées pour compte dans ces discussions-là. Donc, l'idée aussi d'une gouvernance polycentrique, c'est de les mettre au premier plan. Ça s'inspire notamment du mouvement des personnes vivant avec un handicap, où en anglais, leur slogan est « Nothing about us without us ». Donc, consultation préalable. Mais ça veut dire aussi une certaine ouverture à ce que certaines technologies soient mises sur la glace. Donc, c'est sûr que moi, je pars dans une tour d'ivoire. Je suis dans le milieu académique, dans une université qui est encore plus tour d'ivoire que d'autres, d'une certaine façon. Mais j'ai aussi passé des brefs moments où, avec des groupes communautaires, je pense notamment à un groupe basé à LA, dans le quartier de Skid Row, qui est un quartier où beaucoup de personnes vivent sans domicile fixe, où ces populations-là font l'objet de beaucoup de surveillance policière, notamment à travers les technologies, et ils ont une coalition, Stop LAPD Spying Coalition, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a vraiment marquée, je pense, pour le reste de ma carrière, parce que j'ai vu comment des gens qui ont aucunement le bagage technique, académique, le vocabulaire, articulent de façon magistrale les impacts de ces technologies-là et des solutions à ces problèmes-là. Donc, je pense aussi que si on met les populations affectées au premier plan, on va avoir des solutions plus innovantes. Mais ces solutions-là vont aussi ouvrir la porte à repenser plus radicalement les structures et le rôle des technologies à perpétuer des régimes oppressifs, donc opprimants. C'est-à-dire que c'est pas juste de s'assurer que la reconnaissance faciale soit plus exacte et de meilleurs résultats, c'est de dire carrément on ne veut pas de cette technologie-là parce que, premièrement, on met de l'argent sur les forces de l'ordre au lieu de donner accès à un logement stable. Et ces technologies-là sont au service d'un État qui a des standards différents par rapport à différents groupes. Ils servent parfois à améliorer la couche externe, la couche la plus visible des dérives de l'État, mais ne repensent pas plus fondamentalement leur rôle. Ici, je pense aux utilisations des technologies en droit criminel, donc pour la détermination de la peine ou pour la remise en liberté. Ça vient d'une bonne intention dans la mesure où c'était de dire, ben on veut pas garder des gens en prison pour rien. Donc, on va utiliser ces technologies-là pour accélérer le processus, pour trouver des gens qui sont à faible risque et les remettre dans la communauté. Mais ça, c'est une distraction aussi, parce que c'est une forme de techno-solutionnisme qui nous dit, mais pourquoi est-ce que... Peut-être qu'avec ces technologies-là, on va s'assurer que 10 % des gens incarcérés pour rien soient remis en liberté. Mais ça nous distrait aussi de la question, ben pourquoi il y a 90 % des gens qui sont là pour des crimes non violents, alors que finalement, c'est un problème de logement qu'on a, ou c'est un problème de santé mentale, d'accès inadéquat aux services, aux traitements, aux services sociaux, etc.
Ouais, donc, c'est un peu kafkaïque. Mais l'autre chose, c'est que... Et c'est intéressant, cette notion de gouvernance polycentrique. Mais j'imagine que quelque part, il y a un volet... c'est qui applique la loi? Et donc, encore une fois, dans cet environnement où il y a le public et le privé qui commence à... Je sais pas, le public déborde dans le privé déborde dans le public. C'est qui va s'assurer que ces lois ou ces règles sont respectées? Est-ce qu'il y a un rôle, justement, pour les communs des mortels à avoir, je sais pas moi, un droit d'action pour assurer que les règles sont respectées? Est-ce qu'il faut penser à ça dans ce genre de système-là? Parce que je veux dire, moi, je suis un individu, à un moment donné, si je sens que mes droits sont empiétés par l'État et puis bon, ils sont pas respectés, à la rigueur, si je peux trouver les moyens et trouver un avocat qui va me défendre, je vais aller contester un acte gouvernemental ou une loi sur la base que c'est inconstitutionnel, je vais aller chercher un remède quelque part. Mais est-ce que je peux faire ça auprès d'une entité privée comme Facebook ou comme un sous-contractant qui a vendu un logiciel au gouvernement sur la reconnaissance faciale?
Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle individuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une approche, que ce soit un droit d'action privé ou autre, qui en soi va régler ces problèmes-là. Je préconise une espèce d'approche de fromage gruyère, si on veut, là, qu'on avait vu avec la pandémie, où l'idée, c'est chaque approche en elle-même va avoir des trous. Elle ne sera pas parfaite. Mais si on les surimpose une par-dessus l'autre, comme on l'a fait avec le masque, le vaccin, la prévention, etc., si on met toutes ces différentes couches de protection une par-dessus l'autre, on va finir par avoir quelque chose qui a de l'allure. Donc, pour revenir à l'exemple spécifique que vous avez mentionné, c'est un droit d'action privé, je pense que c'est une voie qui a du potentiel, surtout si on la combine avec un accès plus large aux actions collectives. Je mentionne ça parce que, comme on le sait tous, on a un problème d'accès à la justice où c'est très coûteux de faire valoir ses droits. Donc, c'est bien beau d'avoir un droit sur papier contre une compagnie. Est-ce qu'on va avoir le capital financier de zen pour passer à travers le processus? Pas pour tout le monde. Donc, une façon d'élargir cette possibilité-là, ce serait d'avoir un véhicule d'action collective plus auspicieux. Une autre façon, ce serait d'avoir... Ça, j'avoue que c'est pas quelque chose à quoi j'ai vraiment pensé très longuement, donc je réfléchis à voix haute avec vous. c'est d'avoir un genre de financement pour les justiciables, comme on l'avait au Canada pour faciliter les contestations de la charte à un certain moment. Donc, on pourrait avoir un fonds similaire pour supporter les gens qui cherchent à faire valoir leurs droits de cette façon-là. Un autre véhicule, je pense qu'il est important de mentionner, pour revenir au début de votre question, c'est vraiment la reddition de comptes. Donc, ultimement, je pense que quand il s'agit de protéger les droits constitutionnels des gens, ce sont les gouvernements qui ont cette responsabilité-là. Maintenant, ces droits constitutionnels ne s'appliquent pas en ce qui a trait à l'activité privée. Mais ça ne nous empêche pas de raisonner un peu par analogie puis de dire, bien, là, pour l'instant, on a comme un vide juridique en matière de droits substantiels sur comment ces compagnies-là devraient opérer. Mais le gouvernement pourrait demander à ce qu'au minimum, ces compagnies-là soient beaucoup plus ouvertes et transparentes avec la façon dont ils se livrent à leurs activités. Ces compagnies-là ont l'expertise, mais ça ne les isole pas d'une réduction de compte. Elles doivent être prêtes à ouvrir leurs livres pour s'assurer qu'elles font ce qu'elles nous disent. On peut pas juste les croire sur parole. Par exemple, quand Facebook nous dit inquiétez-vous pas, on modèle le contenu de façon automatique avec l'apprentissage automatique, ça marche très bien. Mais les révélations de Frances Haugen nous montrent qu'il y a eu une surenchère de l'efficacité de l'IA dans la modération de contenu. Donc, on a besoin d'un accès beaucoup plus robuste au processus interne. Puis là, les compagnies vont nous dire, avec raison d'une certaine façon, ben nous, on veut protéger notre innovation, on veut protéger nos secrets sociaux, nos secrets commerciaux. Mais il y a des façons de combiner les deux. Je veux dire, c'est pas binaire comme ça où soit on expose tout, on révèle tout, puis on nuit à la compétition, soit on expose rien, puis on laisse les compagnies opérer dans le secret le plus total. On peut penser à une forme de divulgation contrôlée où certains acteurs, des chercheurs, dans des circonstances spécifiques, dans des salles confidentielles où rien ne sort de l'entreprise, ont accès à des données sensibles. Je veux dire, on protège l'identité d'informateurs de police. On protège des éléments d'enquête en sécurité nationale. Je pense qu'on est capable de protéger des secrets commerciaux aussi.
Malheureusement, cette entrevue tire à sa fin, mais j'aimerais vous poser la question. Quels sont les plus grands défis en matière de collaboration entre les divers acteurs publics, privés, individuels? Quels sont les plus grands défis pour nous à élaborer de nouveaux systèmes de gouvernance, surtout quand on pense à ces technologies qui, franchement, se pointent à l'horizon à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Hein, et c'est pas juste l'intelligence artificielle. Moi, j'ai parlé sur cette émission à des experts qui s'inquiètent de l'arrivée de l'informatique quantique. Qui s'inquiètent, il y a la reconnaissance faciale, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça. Alors, est-ce qu'on est dans une période, dans une époque où on est en train de complètement repenser nos systèmes de gouvernance et comment faire en sorte pour que ces systèmes de gouvernance aient vraiment la confiance du public? Parce que je crois qu'il y a un enjeu quand même là, qui est dans un système de co-régulation, avec un gouvernement et des acteurs privés qui se partagent la responsabilité en matière de gouvernance, certains diront que les acteurs privés finiront par nous imposer une réglementation qui est trop permissive, parce que c'est comme ça que le monde a toujours été fait. Qu'est-ce que vous dites à tout ça?
Mm-hmm. Mais je pense que c'est sûr que c'est un risque. C'est à la fois une opportunité puis un risque. Si c'est mal fait, la co-gouvernance, ça peut très facilement tomber dans l'auto-gouvernance. C'est encore plus dangereux que du lobbying, par exemple, où on sait que les compagnies ont accès aux législateurs. Dans le cas de cette auto-gouvernance-là qui est cachée, ça a l'empreinte ou l'apparence d'une participation active du gouvernement, alors que dans les faits, ce serait les compagnies vraiment qui mènent le bal. Donc, ce serait encore plus difficile à contester. Alors ça, je pense que c'est comme le pire scénario qu'on peut imaginer. Les moyens, mais quelque part, on n'a pas le choix de le faire correctement puis de vraiment faire l'effort pour ne pas tomber dans ce piège-là, parce que seuls les gouvernements ne seront pas capables d'imposer la réglementation qui soit efficace, qui soit à jour et qui protège adéquatement les gens. Donc, je pense que la façon de procéder, c'est de un, d'avoir une approche procédurale beaucoup plus robuste, c'est-à-dire prendre au sérieux l'idée d'une transparence accrue et qui puisse permettre d'avoir une visibilité plus large sur ce que les compagnies disent. Puis, ça permettra en même temps aux acteurs de la société civile de mettre à contribution le savoir très, très utile qu'ils ont accumulé jusqu'ici. Donc ça, je pense que c'est un des défis, c'est de ne pas tomber dans le piège d'une co-gouvernance qui est en fait menée par les entreprises privées. Mais je dirais qu'il y a aussi un autre défi qui est peut-être théorique dans le bon sens du terme, là, pas dans le sens qu'il ne s'applique pas dans la réalité, mais de comment le droit aborde, que ce soit des violations constitutionnelles ou en droit civil ou en partie privée, le droit pense différemment de la façon dont la technologie fonctionne. Donc, il faut que les praticiens, que les gens qui évoluent dans le milieu du droit, que nous, on évolue la façon dont on pense à l'application du droit. Je pense particulièrement à...
Vous voulez dire dans la formulation de nos arguments, quand on est en plaidé?
Oui, exactement. Puis je pense que la profession est capable de le faire. Je veux dire, on est tous devenus experts dans un domaine qui est quand même assez pointu. Puis comment je conçois le droit finalement, c'est une porte sur le monde. C'est un domaine qui nous permet de toucher à tout, de satisfaire notre curiosité intellectuelle. Donc, je me rappelle, j'ai passé quelques temps à la cour d'appel où j'étais devenue tour à tour experte en fondation de maison pour un cas de vice caché ou experte en imagerie médicale pour une question de responsabilité médicale. Donc, on a le potentiel d'absorber un savoir technique et l'IA ne fait pas exception à ça, les nouvelles technologies. Vous parliez tout à l'heure de la technologie quantique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, dont il faut rester à l'affût. Donc, je pense qu'en tant que juriste, que ce soit praticien ou dans le milieu académique ou ailleurs, on a la responsabilité de traduire des notions de droit qui ont été créées dans un contexte analogique, avant que ces technologies-là émergent. On a la responsabilité de s'assurer que ces droits-là restent pertinents. Mais on a des obstacles. On peut pas tirer ça de notre chapeau. Je pense qu'il faut être réaliste avec les différences dans les modalités d'application du droit versus comment, par exemple, l'intelligence artificielle fonctionne. Je vous donne un cas de figure. Ce serait, pour revenir à la question de la modération de contenu, nous, on pense souvent en termes de décision cas par cas, alors que l'intelligence artificielle permet la modération de contenu à grande échelle et à volume large. Donc, c'est pas une situation qui est propice à réviser chaque décision individuellement. On pense aussi à un cadre législatif stable, alors que ces décisions-là sont faites de façon ad hoc. Elles sont personnalisées, basées sur les inférences spécifiques à la personne. Ce ne sont pas des lois d'application générale. Donc, ça, c'est aussi un autre obstacle, si on veut. Ces décisions-là sont aussi basées sur des patterns, en bon français. Elles ne sont pas basées sur des principes, comme le sont les dispositions législatives la plupart du temps. Donc, je pense que c'est à nous de reconnaître ces points de divergence-là, puis de trouver des façons qui soient à la fois cohérentes et audacieuses de réconcilier le droit actuel avec les technologies d'aujourd'hui et de demain.
Un autre avertissement aux avocats et aux juristes et aux professionnels du monde juridique de ne pas trop craindre la technologie. Sur ce, malheureusement, nous devons conclure l'entrevue, mais... J'aimerais vous remercier, Maroussia, l'évêque, de nous avoir éclairé sur ces questions. On se doutait bien que les algorithmes intelligents et les nouvelles technologies s'étendaient bien au-delà de la portée de la réglementation et des modèles de gouvernance actuels, mais on voit que ça ne sera pas évident de mettre en place un système efficace. Ce sera à suivre. Merci beaucoup.
Merci, ça fait plaisir.
Si l'épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis et collègues. Et si vous avez des commentaires, des réactions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à @cbanatmag et sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur nationalmagazine.ca pour découvrir le contenu de notre analyse récente de l'actualité juridique au Canada. Un grand merci surtout à notre productrice Anne-Catherine Desulmais et merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.